Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. Ce soir, la Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous présenter cette rencontre création et réseaux sociaux, donc dans le cadre du cycle Lire le Monde et en partenariat avec l'Université Sorbonne Paris 1. Je vais tout de suite passer la parole à Françoise Dauquier qui va vous présenter rapidement en fait, le cycle dans lequel s'inscrit cette rencontre.
Bonsoir, je voulais remercier Bernadette Vincent et le Centre Pompidou de nous accueillir. Donc, c'est la troisième rencontre que nous faisons et nous avions ouvert ce cycle de rencontres qui s'appelle Exposer la recherche en art, qui est une ligne de recherche de l'UMR ACT qui est dirigée par Christophe Viard qui est ici, Richard Comte et moi-même. Voilà, donc l'idée, c'est que les étudiants du master qui s'appelle Sciences et techniques de l'exposition, et donc qui est autour du commissariat d'exposition, organisent chacun par groupe de quatre une soirée. Et donc ce soir, c'est création et réseaux sociaux. Donc je vais laisser la parole à ces étudiants, mais je voudrais les citer. Donc Lauriane Bigourou, Alizée Brimont et Constance Arroyo et Hugo Pérez, que je remercie d'avoir organisé cela avec autant de talent. Et il y aura une publication qui se fera en 2017. Voilà. Merci à vous, en tout cas. Au revoir.
Alors, à nous de remercier déjà Paris 1, l'Université de Cergy, avec plus précisément Corinne Lennon, ainsi que Françoise Dauquier et Christophe Viard. Donc, si vous voulez bien nous rejoindre. Alors, la recherche a toujours existé, la recherche en art, pour arriver à une œuvre, a toujours existé, mais a toujours été très rarement montrée, sauf depuis quelques années. On assiste à une fascination pour ce processus de création. On voit en effet une augmentation de l'intérêt de ce processus dans les arts modernes, classiques, traditionnels, contemporains, comme attestent les récentes expositions, par exemple Rembrandt dessinateur au Louvre. Les dessins de Van Gogh, Affluence et Innovation à la Fondation Van Gogh à Arles en 2015, ou plus récemment l'exposition Dans l'Atelier qui a lieu en ce moment même au Petit Palais, qui, comme son nom l'indique, expose l'artiste en création donc dans son atelier. Alors, dès lors, où se situe la jeune création qui est née avec le numérique et comment se sert-elle du web dans ce sens ? Dans cette monstration du work in progress. Quelles possibilités le web leur permet-il, notamment en termes de recherche et d'exposition ? Avec cette idée de départ de démultiplication des plateformes, d'accès gratuit, d'égalité que permet Internet, finalement aujourd'hui tout le monde peut s'y mettre, tout le monde peut et tout le monde est libre d'exposer ce qu'il veut sans passer par les institutions classiques. Du coup, on s'est interrogé sur plusieurs points. D'un côté, on s'est demandé comment cela permettait de produire, et notamment en termes d'interactivité, c'est-à-dire comment, si cela permet ou pas de créer un réseau fidèle, si ça permet d'échanger ou pas avec le public, et est-ce que ça casse finalement véritablement les frontières. Alors, d'un autre côté, on s'est aussi demandé quels sont les usages possibles de ce médium web en termes d'archivage, de collecte, de communication, d'exposition, d'estimation de la recherche, et finalement quels sont les statuts de ces œuvres qui n'en sont pas encore véritablement puisque ce ne sont que des recherches, des œuvres en devenir, qu'est-ce qu'elles représentent pour l'artiste lui-même, mais aussi comment sont-elles perçues par le public et fait-il vraiment la différence entre ces œuvres qui sont de la recherche et les œuvres finies. Ça, on pourra en discuter justement à la fin. Donc, pour tenter de répondre et de discuter autour de ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir nos trois intervenants qui ont gentiment répondu à notre invitation que Lauriane va vous présenter.
Donc, bonsoir. Je vais commencer par Valérie Baudouin, plus à droite, qui est chercheuse en sciences sociales à Télécom Paris Tech. Également membre de l'Oulipo depuis 2003. Et donc, pour présenter brièvement Valérie, elle est spécialisée dans les méthodes et outils pour l'analyse automatique des textes, donc, qu'on appelle aussi le text mining. Depuis la fin des années 90, ses recherches portent sur les mutations liées au numérique, donc sur la sociabilité, les pratiques culturelles, les nouvelles formes d'écriture et de lecture, et sur l'analyse des formes contemporaines de l'innovation. Je vais passer ensuite à Julien Tools, qui est un artiste vidéo et installation. Ses recherches portent sur l'expérience de la défaillance, donc sont des recherches qu'il fait sous la direction d'Olga Kiseleva. Il a notamment dispensé des cours à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est également intervenant aux Beaux-Arts et à l'école des mines de Nancy, et spécialement au sein de l'atelier de la robotique en partenariat avec l'équipe Lauria. Donc au niveau de son activité artistique, il a fait partie de la sélection 2016 du Jeune Création, de l'exposition Jeune Création, pour laquelle il a reçu le prix de la Galerie du Haut-Pavé, et il fait désormais partie du comité de sélection de Jeune Création. Enfin, juste à ma droite, Margot Auria, qui est une jeune artiste, membre du collectif Autopos, qui est un collectif qui installe dans des lieux abandonnés, en se basant sur la propre histoire du lieu. Donc Margot est diplômée de l'École supérieure d'art et de design de Valence, depuis 2014. Et puis je vais justement lui laisser la parole pour qu'elle puisse un petit peu plus se présenter et présenter sa pratique.
Alors, bonsoir à tous. Donc, je suis Margot. Déjà, je voulais remercier la BPI et particulièrement Bernadette Vincent, ainsi que les étudiants de l'Université Paris 1, donc Lauriane Vigourou, Hugo Pérez, Alizé Brément et particulièrement Constance Arroyo. Je vous ai préparé en fait une sorte de diaporama où on pourra voir mon travail. Alors, je fais principalement des installations et de la sculpture. L'idée, c'est de créer des installations qui impliquent des formes de narration, créer des espaces poétiques où on peut avoir différentes lectures des pièces qui sont créées individuellement. Donc, je vous propose simplement de regarder ce diaporama un peu comme si on déambulait dans l'espace. Je pense que ça évite d'avoir un discours qui est un peu... peut-être pompeux, et donc je vous laisse regarder le diaporama. Donc il y a différents médiums, comme vous pouvez le voir. Donc on va peut-être revenir plus particulièrement à certaines de mes pièces, puisqu'en fait je vais vous expliquer un petit peu la manière dont je procède. Généralement, en fait, je récupère des matériaux, donc des matériaux plastiques, qui sont généralement soit trouvés dans l'espace public, soit qui appartiennent au quotidien. Donc par exemple, je vais vous montrer cette pièce qui s'appelle Rousset. Donc là, c'était une photographie d'identité que j'avais trouvée par terre, qui avait le visage qui était brûlé. Cette pièce devient simplement une réappropriation de ce qui peut exister dans l'univers quotidien, et en fait donne un sens de lecture en fait au spectateur. Plutôt que de voir principalement l'objet, on voit quelque chose, une sorte de vecteur de cette image, donc là pour le coup c'est un scan. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles je travaille. Ensuite, là par exemple, ce filet, c'est quelque chose qui est fait à la main, c'est un filet de 3 mètres par 3 mètres, et là j'avais travaillé à partir de chiffons et de vêtements de travail que j'avais récupérés en fait dans une usine de métallurgie à Saint-Étienne. Et donc en fait c'est une sorte de filet qui documente métaphoriquement le corps ouvrier, j'allais dire, et les existences individuelles qu'il peut y avoir au sein d'une usine, par exemple. Voilà. Donc c'est un travail qui est un petit peu en lien avec la poésie et en même temps qui est très ancré dans un quotidien, dans une trivialité et dans une sorte de banalité aussi de l'existence. Donc si je vous parle de ça, c'est parce que en fait, vous imaginez bien que ces formes, elles apparaissent pas toutes seules et qu'il faut les penser. Et donc après, les matériaux plastiques que je trouve et qui me donnent envie de créer, j'ai aussi un matériel intellectuel que j'essaye de façonner. Et donc parmi ce matériel, j'ai énormément d'images et de documents de différentes natures. Donc du coup, alors par où commencer ? À la base, en fait, tous ces documents, je les avais sur mon ordinateur. Ils étaient déjà, classés par dossier. Sauf que c'est des dossiers qui sont un peu rigides quand ils sont comme ça sur ordinateur. Ça ne permet pas de les consulter de partout. Et j'étais aussi amenée à avoir des problèmes du point de vue purement technique, comme par exemple quand je suis face à des vidéos. Et que les mettre sur mon ordinateur, ça sous-entend donc un téléchargement et donc des étapes nécessaires pour conserver des documents. Donc le blog, il vient à ce moment-là, c'est-à-dire simplement pour faciliter en fait le mélange de tous ces documents et puis aussi le stockage et l'accessibilité à ces documents. Donc je vais vous en parler un peu mieux. Alors donc mon blog s'appelle Amuser la puanteur, donc je vous laisse apprécier le titre. Il est hébergé donc sur l'interface et le réseau social Tumblr, donc qui est en fait lié vraiment à la photographie, au partage de photographies généralement, mais qui peut s'appliquer sur d'autres médiums. Donc je l'ai créé en fait en 2011, et alors que j'étais encore étudiante aux Beaux-Arts. Donc en fait j'ai vraiment façonné ma pratique avec ce blog. Donc il est vraiment important. Au début, je n'avais pas forcément conscience en fait, que ça deviendrait vraiment un outil de travail. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je l'agrémentais énormément et que je le consultais assez régulièrement pendant la création de mes pièces. Donc je me suis interrogée en fait, sur cette relation que j'avais avec ce blog. Et puis rétrospectivement, je me suis rendu compte aussi que certaines de mes pièces, les formes, on pouvait en retrouver dans ce blog. Et donc c'est comme ça que c'est vraiment devenu mon blog de recherche et que je l'ai assumé en tant que tel par la suite. Donc je vais vous présenter de manière un petit peu analytique ce qu'on peut trouver dessus. Donc en fait d'abord je vais vous présenter les différents types de documents qu'on trouve dessus et qui sont importants pour ma pratique. Et ensuite je vous présenterai les différents types d'utilisation du blog. Donc comme les différents types de documents, donc on a des images qui sont rebloguées. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Tumblr, en fait, il y a une interface, une sorte de page d'accueil. En fait, on s'abonne en fait, aux personnes qui ont un blog aussi. Et on peut voir en temps réel l'ajout de ces publications. Et en fait, les images que je rebloque sont des images qui m'intéressent, d'autres utilisateurs de Tumblr. Et donc généralement, ce sont des... comme par exemple pour cet article-là, ce sont des travaux d'autres artistes. Donc là par exemple c'est Collier Shore. Et donc ça m'intéressait par rapport à ma propre pratique. Bien sûr je regarde toujours les choses en fonction de ce que je peux créer dans le moment même ou ce que j'ai pu créer. Je poste moi-même des images donc, que je trouve sur d'autres interfaces que Tumblr. Donc, c'est souvent lié justement à toutes ces recherches internet que je fais presque de manière journalistique. Donc, j'agrémente ce blog de mes propres images. Donc, par exemple, celle-là. En fait, en ce moment, je fais des recherches sur les santons de Provence. Ça n'a pas forcément grand lien avec ce que je fais pour le moment, mais je sais que peut-être dans quelques mois, dans quelques années, j'aurais fait des recherches dessus et le blog fonctionne comme une sorte d'aide-mémoire. Donc je pourrais le consulter éventuellement et me souvenir que j'avais déjà fait cette recherche-là auparavant. Et voilà. Il y a aussi des vidéos. Donc vidéos, c'est un peu vaste, donc j'ai essayé d'en faire une sorte de petite liste. Donc il y a beaucoup de musique qui est postée sur YouTube et que je mets sur mon blog, qui a un apport autre, mais qu'il faut noter quand même. Il y a des reportages, donc par exemple il y a un reportage sur les volcans, mais il y a aussi des reportages plus journalistiques qui sont liés à des faits divers. Il y a des extraits de conférences aussi, généralement c'est plutôt des conférences qui sont axées sur la pop culture. Et il y a aussi des vidéos que je trouve sur d'autres interfaces que Tumblr, comme par exemple Facebook. Celle-là par exemple, un enfant qui a peur de son ombre, je vais vous la montrer tout de suite. Yeah! Donc, mis à part pour la petite blague, en fait, cette vidéo qui a été quand même virale sur Facebook, je l'ai postée sur mon blog, j'aurais pu la laisser dans Facebook, et voilà, je l'ai postée sur mon blog parce que pour moi, elle me rappelle des choses assez précises. D'abord, quand je l'ai regardée, elle m'a fait penser en fait à un texte de Pessoa où justement il décrit son ombre et la peur qu'il peut avoir à la regarder et au fait qu'il le suive toujours. Et ensuite, ça m'a fait penser à des images que j'ai postées auparavant, notamment cette pub pour Chanel qui s'appelle Égoïste, où on voit un homme qui est en train d'essayer de combattre son ombre. Et cette même image, je l'avais postée parce qu'en fait, j'avais écouté une vidéo sur YouTube. Donc, il y avait une image qui présentait cette vidéo. C'était une vidéo de Prokofiev sur la danse des couteaux. Et donc, j'avais été amenée à voir cette publicité. Donc, tout ça, c'est pour dire que le blog, toutes les images, même si un spectateur lambda ne peut pas forcément les voir, enfin, un lecteur du blog ne peut pas forcément les voir parce qu'il n'a pas discuté avec moi. Moi, je sais qu'en regardant ces images-là, j'ai toute une sorte de réseau, une toile d'araignée qui est créée en fait entre les images. Donc une sorte de carte mentale en fait. Il y a aussi donc des photographies que je prends moi-même. Il y a aussi des scans. Comme scan, je peux peut-être vous montrer un petit mouchoir que j'adore. C'est un mouchoir que j'avais récupéré et que j'ai scanné juste pour en garder une trace, pour éviter de le déplacer tout simplement, d'avoir à le porter avec moi. Donc je le scanne, je le mets sur mon blog, comme ça facilite aussi. Voilà, j'ai aussi des captures d'écran qui deviennent donc des images. Donc comme capture d'écran, j'ai par exemple celle-là, « Vous êtes invisible, devenir visible ». Ça, c'était quelque chose que j'ai vu sur l'interface de Gmail, où en fait on peut cacher le fait qu'on soit connecté pour discuter avec des gens. Et j'aimais bien l'idée de vous êtes visible, devenir invisible. Voilà, c'est des choses qui font écho aussi à mon travail, qui est généralement un peu axé sur l'absurde. Et voilà, donc du coup, il y a aussi des captures d'écran qui viennent directement d'Internet, qui sont sur mon blog. Et pour finir, j'ai aussi des photographies de mes travaux en cours, ce que j'appelle des avortons. Alors, je vais vous montrer ça. Ah mais non, mais je crois que j'avais déjà fait là. Ah voilà. En fait, ce sont des photographies de travaux qui sont en cours et aussi d'avortons. Donc des avortons, j'appelle ça comme ça parce qu'en fait, c'est des formes qui sortent de l'atelier avant qu'elles aient eu le temps d'être véritablement finies. Et souvent, c'est aussi des travaux qui n'aboutissent jamais parce qu'ils ont quelque chose d'un peu monstrueux, mais c'est quand même important de les garder pour pouvoir analyser par la suite une progression ou alors les reprendre. Donc ils ont une existence sur ce blog et ils font partie de cette aide-mémoire. Voilà. Donc voilà pour les différents types de documents sur le blog. Et donc maintenant, on va passer à l'utilisation. Je te donne ça. Donc bien sûr, il y a l'utilisation par ordre chronologique, donc comme peut le faire n'importe quel lecteur, voilà, en suivant les pages, et puis n'importe quel abonné aussi, puisqu'on reçoit les notifications par ordre chronologique, forcément, puisque c'est en temps réel. Il y a la vision par archive, donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire sur tous les Tumblr. Si on tape dans l'URL archive, on a en fait cette espèce de chemin de fer du Tumblr, où on voit une classification en fait par mois des apports, qui sont liés au Tumblr. Donc on voit qu'il y a des mois où je ne travaille pas beaucoup et des mois où je suis beaucoup plus productive dans mes recherches. Voilà. Donc tout ça, c'est intéressant aussi parce que même pour moi, quand je pense à une image, quand je crée quelque chose, je peux retourner à cette page-là pour retrouver les images beaucoup plus facilement. Donc tout ça, en fait, est en lien avec cette facilité et cette accessibilité, finalement, du blog. Voilà. Ensuite, il y a une nouvelle fonctionnalité que j'ai créée, donc qui est la recherche par mots-clés. Donc, vous avez une liste de mots-clés qui se trouve ici. Et je l'ai ajoutée assez récemment parce qu'en fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, elle me permet de définir et de classer les images par catégorie. Donc en fait, le titre de ces catégories, ça raconte aussi beaucoup de choses sur ma pratique. Donc je vais juste les lire. On a absurde, amateurisme, architecture, artisanat, coutume et tradition, culture populaire, environnement, érotisme, existence, faits divers, histoire, littérature, mythe, objet, pauvreté, poésie, politique, référence, science et travail. Et donc, pour quelqu'un qui s'intéresserait justement à toutes les recherches en amont de mon travail, c'est déjà une manière de parler un petit peu mieux de ce qui peut graviter autour. Ensuite, cette fonctionnalité, elle me permet de faire des liens entre les images, parce que, en fait, quand on peut tout à fait taper deux mots clés dans la barre de recherche, donc par exemple, on va taper histoire et absurde. Et donc, ça lie des images entre elles, ou des images ou des contenus qui n'ont absolument rien à voir. Par exemple, on a la photo du fait divers tragique de la mort d'Albert Camus, donc qui est mort par accident de voiture. Donc Albert Camus, qui est donc un des théoriciens de l'absurde, et en dessous on a une vidéo que j'ai taguée sous le nom d'absurde et d'historique, puisqu'en fait ce sont des personnes qui sont sympathisantes de Kim Jong-il, enfin du moins qui sont obligées d'être sympathisantes et qui pleurent en fait la mort du dictateur. Donc du coup voilà, ça peut permettre de faire des liens qui sont parfois un peu improbables mais qui peuvent être intéressants puisque du coup on se rend compte que les frontières sont poreuses entre les choses et que voilà. Et pour conclure, cette conférence en fait elle m'a vraiment interrogée sur ce blog là et je me suis dit qu'en fait peut-être que finalement ce qui est un outil de création pourrait en fait être élargi aux spectateurs. Et l'idée de créer par exemple un hashtag qui serait lié en fait au titre de mes pièces m'intéressait pas mal. Donc j'ai fait pour vous en fait une petite page. Donc, si j'arrive à taper, bon, j'ai juste tapé Spandex. En fait j'ai une de mes pièces qui s'appelle Spandex, c'est la pièce avec le filet fait avec les habits d'ouvrier. Et donc du coup je me disais que ça pourrait être intéressant qu'éventuellement un utilisateur puisse taper les noms de mes pièces dans ce blog et tombe sur les choses qui ont inspiré en fait mon travail. Donc là par exemple j'avais fait des recherches sur le camouflage parce qu'en fait moi je savais pas mais c'est inventé par des peintres et vu que j'avais énormément de tissus à disposition et des couleurs différentes, il y a eu un moment où je me suis posé la question de la trame. Et donc du coup j'ai fait beaucoup de recherches sur le camouflage mais aussi sur le filet de pêcheur. Le camouflage m'a amené à m'interroger sur les animaux et la manière dont ils sont dans l'environnement, dont ils s'adaptent. Il y a aussi cette pièce de Boran Sarcevic que j'ai eu la chance de voir à l'IACI de Villeurbanne, qui est en fait un travail il a demandé en fait à des personnes de porter des vêtements de travail. Ensuite, il a exposé les vêtements de travail. Donc ça, c'était quelque chose qui m'avait inspiré il y a plusieurs années et que j'ai fait le lien plus tard avec ma pièce. Il y a aussi cette capture d'écran d'un clip de Mia, où en fait elle a les cheveux en forme de filet, donc c'est très pop, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée quand j'ai regardé le clip. Il y a cette photo aussi que j'ai prise à Fuzeta, dans un petit village de pêcheurs, pendant une soirée en fait, où ils montraient en fait tout l'arsenal qu'ils ont pour pêcher des poissons. Donc tout ça, en fait, ça parle de mon travail. Et ça, c'est la toute première chose que j'ai fait pour créer mon filet. Avant de le créer, j'ai d'abord fait cette petite chose à la main avec juste des épingles et des petites bandelettes entortillées les unes avec les autres. Et donc, qui est sur mon blog, qui aujourd'hui est quelque part perdu dans les poubelles de France. Mais voilà, au moins, elle est sur mon blog et c'est le commencement de cette pièce. Voilà.
Alors, on va peut-être laisser la parole à Julien Tools pour nous présenter un peu son travail et son rapport à la recherche.
Bonsoir. Donc je voulais remercier aussi toute l'équipe qui a organisé l'événement, puisque c'est quand même du sacré boulot. Donc voilà, donc moi je me présente, comme ça a été dit, je m'appelle Julien Tools. Donc je suis étudiant également à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, en arts et sciences, donc sous la direction de Olga Kiseleva. Et j'ai à côté, en parallèle de cette activité d'études, pour résumer rapidement, avant j'étais étudiant à la Villa Arson, à laquelle je passais mon DNSEP, c'était en 2007, donc ça remonte un peu. Et depuis, j'ai repris les études donc à Paris en 2009. À l'époque, c'était sous la direction de Anne-Marie Duguay et Nicolas Telly, c'était en arrêt média numérique. et donc j'ai poursuivi par la suite voilà, avec Olga. Donc pour expliquer un peu ma pratique à, en dehors de l'université et de la, des études, enfin mon activité on va dire, je suis surtout intervenant dans pas mal de Fab Lab et de Art Lab depuis 2008 maintenant, notamment à Résonance Numérique à Marseille, qui a été le premier Art Lab qui s'est créé en fait dans le sud de la France. Et par la suite avec le Festival Gamers donc à Aix-en-Provence, donc qui est un lieu de création et de mise en place de festivals, donc d'expositions d'art contemporain, mais orienté sciences et nouvelles technologies. Donc dans ce lieu qui a à Aix-en-Provence, donc qu'on nomme le Lab Gamers, c'est un lieu de résidence et d'accueil d'artistes que l'on encadre en fait pour créer des pièces qui sont souvent liées à des recherches qui peuvent être liées avec des choses très très banales comme l'impression 3D, les scans tridimensionnels, les capteurs de mouvement. Il y a aussi tout ce qui est lié à la vidéo-relief, les casques d'immersion, etc. Enfin, toutes ces nouvelles technologies dont tout le monde entend parler actuellement et sur lesquelles tous les médias se passionnent un peu. Pour ma part, en contrepartie, ma pratique n'est absolument pas liée à ça. Elle est, on va dire, influencée au niveau des images, mais pas du tout dans ma pratique. C'est-à-dire que je vais avoir une pratique de technicien derrière qui sera lié à ces technologies, mais dans ma pratique personnelle plastique, au contraire, j'aurais plutôt une volonté de me détacher de tous ces de ce trop plein technologique en fait, qui aurait tendance un peu à peut-être simplement me fatiguer, puisque 8 heures par jour, après quand je rentre chez moi, j'ai pas envie de faire ça. Ça c'est pour expliquer très rapidement. Donc je vais passer sur ma fenêtre. Donc voilà. Donc mon travail il se divise en deux étapes, on peut dire, enfin deux types de monstrations qui sont deux types de réalisations différentes. Il y a ce que je fais en ligne, ce qui est montrable en ligne, et ce qui est visible dans l'espace réel, qui sont deux choses totalement distinctes. Mon travail, avant tout, donc qui découle d'une activité que j'ai commencé donc au Beaux-Arts, est avant tout orienté sur la vidéo expérimentale. Donc j'ai vraiment commencé avec des vieux matériaux, des vieux matériaux, pas pour tout le monde, mais des matériaux plus basiques, type Super 8, 35 mm, etc. Mais ça jouait déjà sur la détérioration du matériel pour mieux le révéler. Donc ça c'est influencé notamment par des cinéastes qui sont très connus dans le milieu du cinéma expérimental, tels que Brakhage, Stanley, Lenny, etc. Et au fur et à mesure, j'ai continué à faire ce type d'activité, mais avec ces nouvelles technologies, entre guillemets, davantage orientées digitales, on va dire. Donc là, je vous présente rapidement, là c'est mon site qui est très simple, il n'y a pas d'emballage, il n'y en a plus. J'ai eu une activité pendant quelques temps de travail du web, enfin je me suis intéressé un peu à l'édition web, donc j'ai fait beaucoup de sites expérimentaux, mais au fur et à mesure j'ai arrêté puisque il y avait un réel problème pour maintenir les sites à jour, les normes évoluant très rapidement, comme c'était des sites un peu expérimentaux, ça avait tendance à ne plus être lisible, notamment sur les derniers navigateurs, et puis même à cause des interfaces des ordinateurs qui deviennent de plus en plus performants, mais malgré tout qui ne vont plus lire l'ancienneté du web. Donc à la rigueur, ça peut être retrouvable sur des plateformes comme archive.org, si on remonte avec la machine à remonter dans le temps de archive.org, je pense que si vous tapez mon nom, prénom, Julien Tools, toutattaché.com, je pense que vous pouvez lire des vieux sites, et à ce moment-là, ça peut remonter jusqu'à 2001 ou 2002 avec les premières éditions. Donc voilà. Donc mon travail de recherche actuellement à Paris 1, donc au travers d'une thèse, donc que j'effectue en arrêt science, c'est un travail qui s'interroge sur l'esthétisme de la défaillance. Donc c'est autant la défaillance au travers de l'imagerie des matériaux utilisés, donc ordinateur, vidéo, etc., mais aussi au travers des problématiques de vision. Donc c'est davantage lié à ce moment-là à l'ophtalmologie en définitive. Donc c'est comment retranscrire des phénomènes optiques qui peuvent avoir lieu au travers de partage de création visuelle, tout simplement. Donc pour expliquer la petite anecdote, ça part très rapidement d'un constat que j'avais eu il y a quelques années où j'avais j'avais vu un film qui avait été encodé d'une très mauvaise manière à l'époque, c'était les DivX. Les DivX, c'est un codec qui est vraiment sale pour ceux qui connaissent, qui a un taux de compression qui est assez énorme, mais qui a un rendu de la qualité image qui est assez déplorable. Et donc le phénomène que j'avais pu observer à l'époque, alors que j'observais le film avec d'autres personnes, c'est que moi j'ai vu une suite de data moshing sur l'écran, donc je voyais plus que des pixels qui allaient dans tous les sens, alors que les personnes qui étaient à côté de moi voyaient le film d'une manière à peu près correcte. Donc ça s'est reproduit sur différents films encodés de cette manière-là. Et ce qui m'avait donné à l'époque de travailler un peu sur les principes de data moshing, donc le principe de mélange de pixels comme on le connaît actuellement, en essayant de reproduire ces principes-là, en bidouillant un peu les fichiers que j'avais à disposition de certains films. Donc j'ai pris des films sans histoire particulière. Donc il y avait un film de James Franco, il y avait le film de Nicolas Hulot, n'importe quoi, de Jacques Tati, Les vacances de Monsieur Hulot, et un autre film de Russ Meyer. Donc j'en ai fait à peu près au total 15-20. C'était des principes assez simples en fait pour les produire. Donc je vais vous le montrer sur le Vimeo, comme ça on pourra le regarder en grand écran. Donc ça consistait à télécharger le film avec un logiciel de BitTorrent et d'arrêter le téléchargement à peu près à 50%, 60% selon les films, et de l'éditer tel quel. Donc ça donnait donc là le film il est théoriquement en très bonne qualité, sauf que j'ai arrêté le téléchargement à 50% et j'ai rien fait. Il n'y a eu aucune action après sur le fichier. Donc je m'étais amusé à l'époque à les appeler un peu les Ready and Made. La blague un peu à deux balles, mais bon, c'est pas très grave. Donc vous voyez un peu ces effets maintenant que l'on revoit et revoit. Même Kanye West a fait un clip avec ce principe-là par la suite. Mais bon, il a bien fait. Donc un petit autre... Je pense que sur celui-là, il y a un peu de son et que du coup, le son est aussi un peu détérioré. Voilà. Donc concernant ma pratique, c'est une pratique qui se fait sans atelier. Donc mon atelier, c'est mon ordinateur. J'ai tendance un peu à les accumuler au fur et à mesure, puisque j'ai aussi une tendance à ne rien mettre à la poubelle. Donc ça devient un peu des carnets comme ça, c'est-à-dire que je les accumule. C'est vraiment le principe du book, hein. Donc, c'est-à-dire toutes mes tables de montage vidéo, mes sources, etc. Je conserve tout un peu d'une manière maladive. Donc le portable a été une très grande création, puisque quand il a fallu passer de la tour, le cumul des tours, c'était un peu une autre problématique. Donc voilà. Donc ça c'était pour expliquer un peu ce qui m'intéressait dans ces phénomènes de détérioration et pour expliquer ma pratique très rapidement, mais on n'est pas vraiment là pour ça, puisqu'on est là pour parler de comment on le fait, comment on le diffuse. J'essaie un peu de retrouver mes notes, désolé. Donc oui. Donc comme Margot, vous voyez, j'utilise plusieurs plateformes pour diffuser mes pratiques, mes réalisations. Donc j'ai pas du tout une approche de ce que je diffuse comme un vecteur vraiment de large diffusion. C'est souvent des diffusions très restreintes. Déjà, vous voyez que j'utilise régulièrement ce petit logo en guise de nom, etc., qui varie aussi. Par exemple, sur ma chaîne YouTube, ça vient du Blind Tools. Sur le SoundCloud, c'est du machin quoi hardcore. Ici, ça sera Easy List Noise, normalement, je pense, pour le nom. Enfin voilà, bon, ça sera Julien Tools Bandcamp. Donc, c'est vraiment pour moi, c'est un espace de travail qui est propre à l'atelier. Enfin, qui se rapproche de l'atelier. Comme j'ai une certaine tendance à déménager très régulièrement, à bouger tout le temps, etc., je n'ai vraiment pas d'espace pour moi pour travailler. À part mon ordinateur, du coup, ça devient ma zone de travail à laquelle sont invités quelques connaissances à se confronter, à me donner leurs avis. Moi aussi, j'échange avec eux, etc. Mais si vous vous y rendez, vous pourrez voir qu'il y a... Il y a très peu de lectures, il y a très peu de followers, je suis moi-même très peu de personnes, si ce n'est des personnes qui sont déjà dans mes connaissances physiques, enfin dans le AFK, comme on dit, quoi, en dehors du clavier. Donc c'est un petit réseau qui se trouve entre Paris, Aix-en-Provence, Marseille, quelques personnes à Berlin, très très peu en Normandie, là où j'habite actuellement. Et voilà. Donc ça me permet d'avoir tout un travail, notamment qui est lié à l'expérimentation vidéo, comme je disais, et d'avoir notamment développé un travail d'installation de chambre. Donc ça, c'est un travail que j'ai commencé en 2009, quand j'ai commencé mon master 2 en art et médias, en art et médias numériques, donc avec Anne-Marie Duguay. Donc ce principe d'installation de chambre, ça consistait à l'époque, quand j'étais étudiant à Paris, dans un petit 12 mètres carrés, matelas compris, de créer des petites sculptures, on va dire, dans mon lieu de vie, en m'aidant de matériaux, pas forcément de récupération, mais que je montais moi-même, en utilisant des projections, etc., de concevoir des petites installations où les rapports d'échelle étaient cassés, enfin étaient brisés. Du coup, ça a été toute une activité où j'en ai fait à peu près une soixantaine sur un an. Elles n'ont pas toutes été mises en ligne, mais c'est le principe. Donc les installations de chambres, pour résumer, ce sont des petites installations comme ça. Donc ça, celle-là, c'est l'une des dernières, c'était des petites expérimentations que j'avais fait l'été dernier, mais ça remonte à 2009, les premières. Donc comme je disais au début de l'intervention, c'est que ces installations de chambres et toute ma pratique qui est visible au travers du web n'est pas celle que vous verrez forcément sur mes sites, et que vous verrez, je veux dire, dans la vraie vie, quoi, dans la vie en dehors du clavier. Les moments d'installation que je peux avoir, notamment comme j'ai eu à Jeune Création au mois de janvier, je les utilise aussi comme une sorte de moment d'expérimentation, c'est-à-dire qu'on m'autorise à exposer, déjà pour moi c'est une chance et un honneur peu courant, on va dire. J'expose très peu régulièrement, une fois par an, deux fois par an grand maximum, et je m'en contente parfaitement puisque ça rentre pas dans ma logique ni économique, enfin voilà, mais bon, ça fait partie du principe, hein. Du coup, quand j'ai ce genre d'opportunité, je ne réalise jamais des choses qui ont déjà été faites. Ce sont forcément des choses que je réalise pour la première fois et pour la dernière fois d'une certaine manière. Donc souvent, il y a une adaptation au lieu. J'aime pas parler de pratiques in situ, puisque ça pourrait être des pratiques qui pourraient aussi être déviées dans d'autres lieux. Elles sont pas liées à l'histoire du lieu ou voilà. mais c'est une volonté d'avancer les choses pour moi et pour éviter l'ennui d'une certaine manière, puisque ça me... Vu qu'il n'y a pas de retour économique sur tout ce que je fais en pratique plastique, je n'ai pas envie de le répéter ad vitam, quoi. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Donc là, c'est encore une petite installation de chambre avec un essai de vidéomapping totalement déformé sur la boule à facettes qui est au-dessus de mon lit actuellement, si vous voulez savoir. Donc, et je vais présenter peut-être les... j'ai quand même quelques vidéos d'installation qui ont été faites dans l'espace réel. Donc j'en ai présenté trois, voilà. Donc il y a une première installation qui se nommait Welcome to the Jungle, petite citation à ce grand groupe de hard rock des années 90, qui était une installation simple encore de vidéo qui a été faite dans la galerie des Grands Bains Douches de la Plaine à Marseille. Donc il y a une galerie qui a une architecture assez particulière puisqu'il s'agit d'un patio autour d'un jardin. D'une galerie autour d'un patio qui est un jardin dans lequel il y a beaucoup de végétaux et mon intervention qui a duré 2 jours je crois, ça a été très rapide, enfin 2 soirées du coup puisque c'était 2 nuits, consistait à juste projeter à l'aide de 12 vidéoprojecteurs qui étaient installés dans le patio la même image vers l'intérieur de la galerie. Donc il y avait une projection des végétaux qui était faite sur les murs de la galerie. Et les gens qui circulaient dans cette galerie pouvaient observer leur ombre au travers de ces végétaux. D'où la blague « Welcome to the Jungle ». Donc là on voit l'intérieur de la galerie avec ce petit effet lumineux qui était juste une petite variation de lumière qui était projetée sur 12 vidéoprojecteurs et qui donnait cet effet très, très simple en fait, d'installation, on va dire assez monumentale, et à l'opposé de ce que je peux faire au travers de ma pratique web, vidéo, etc. Bon, je tiens à préciser qu'il n'y avait pas de son du tout pendant la soirée, c'est juste que le caméraman, le monteur qui s'appelle Jérôme Finot qui fait beaucoup d'interventions et de vidéos artistiques orientées musicales, je lui ai laissé carte blanche pour faire le petit montage et voilà, il s'est amusé à faire ça. Ici, un peu plus précisément, on voit le principe de projection de l'ombre aussi de la personne au travers de la projection des 12 vidéoprojecteurs. Donc là, c'était Variation on a Cocktail Dress, qui était une installation que j'avais fait à Montrouge en 2012, lorsque Paris 1 était invité, enfin l'école invitée du Salon de Montrouge, donc qui avait été présentée dans la salle au-dessus du, enfin la salle haute au premier étage du beffroi de Montrouge. Donc là, c'est la vidéo, enfin on va en passer une autre plutôt. Là, je vous présente juste une intervention, une collaboration en fait que j'ai faite avec l'artiste Paul Destieux. Donc c'est une intervention qu'on a quand même malgré tout réalisée plusieurs fois, à mon grand regret, puisque comme je le disais, moi c'est vrai que j'ai souvent une volonté de ne pas reproduire les installations, mais là c'est vrai que le jeu s'y prêtait plutôt bien, et que bon, en fait ça consistait à caler 2 vidéoprojecteurs l'un sur l'autre en mode, on va dire, miroir. Avec l'ajout de quelques machines à fumer, et là on n'entend pas le son. Et c'est un peu dommage. Si on l'entend. Et en fait, vous pouvez observer par moment sur les images que l'on voit dans l'arrière-plan qu'en fait, ce sont toutes les scènes de combat de Star Wars. Donc, jeu d'effets visuels, des rayons laser avec des rayons de projection des vidéoprojecteurs. Paul Destieux, qui est un artiste avec lequel j'ai beaucoup travaillé à Aix et à Marseille, qui fait partie du collectif Autoprod, qui est un collectif qui organise des résidences et des expositions entre la Slovénie, donc à Maribor, et Marseille, du coup. Voilà. Donc après, je voulais terminer par très rapidement, l'utilisation de Vimeo, c'est vraiment un endroit où je mets toutes mes expériences d'une manière chronologique, il n'y a pas de réel classement, si ce n'est un petit classement un peu comme Margot, sauf que moi je l'utilise un peu d'une manière un peu plus bête, on va dire, puisque j'utilise un peu le tag comme un menu, donc ça permet de s'y retrouver par rapport au type de médium l'importance que je donne aux créations. Donc ça peut être des petites installations de chambre, ça peut être des performances, ça peut être des vidéos expérimentales, ça peut être la série des Ready and Men dont je parlais tout à l'heure, etc., etc. Avec des petits films non narratifs aussi que je faisais à l'époque quand j'étais au Beaux-Arts. Et donc pour terminer sur le YouTube, en fait le YouTube me permet davantage d'être vraiment une sorte de base de travail quand je travaille avec d'autres personnes, notamment par exemple pour ce type de vidéo actuellement qui est vraiment un montage qu'on essaie de faire avec un groupe de Bourges avec lequel je travaille, puisqu'on va essayer de faire une sorte de performance de live, de mapping, etc. Donc ça nous permet d'avoir cette base de travail. Et en plus, on utilise les outils propres à YouTube, comme ici, donc, c'est-à-dire la vidéo 360, qui permet de faire ce petit genre de choses. Et en fait, c'est tout une base d'échange, quoi. Après, j'avais juste fait des petites choses qui m'avaient amusé à l'époque. C'était de voir si je renommais les vidéos, mes vidéos, entre guillemets. Alors, je ne sais pas, j'aurais pas y accédé ici, parce que, comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on préparait la conférence, c'est qu'en fait, je ne vais jamais sur le front de mes pages, puisque je suis toujours dans le bac, en fait, et du coup, je n'ai jamais accès à ça. C'est assez bluffant de voir ça. Donc, en fait, je... Peut-être là... Non, même pas. Bon, c'est pas très grave. Donc ça, c'était à Jeune Création. Donc oui, en fait, ce que je voulais juste dire, c'est que je m'étais amusé à renommer tous mes fichiers vidéo avec des noms très, très, très racoleurs, type Coupe du Monde 98, Sextape, etc., etc., pour voir si ça ramenait beaucoup de vues. Et en fait, pas du tout, quoi. Enfin, j'avais même changé les tags, etc., mais non, ça n'a pas du tout fonctionné. Enfin, ça restait à 15, 20 vues. Enfin, c'était assez triste, en fait, en définitive. Donc, voilà.
Merci. Merci, Julien. On va peut-être laisser la ouais. parole à Valérie. À Valérie Boudin, qui va nous parler de sa recherche dans le domaine littéraire et des écrivains sur le net, et comment est-ce que ça fait écho justement avec la jeune création.
D'accord. Donc merci à tous pour cette invitation et merci à vous quatre. C'était vraiment très très agréable de préparer avec vous cette soirée. Donc je vais partir. Donc déjà je suis décalée, je vais travailler plus de littérature que d'art, hein, mais c'était ce dont on avait convenu. Et je vais partir de la question initiale que j'ai eue à la fin des années 90, quand j'ai découvert pour la première fois les sites personnels qui s'appelaient à l'époque des pages perso, et ce que ça représentait pour les individus comme nouvelle façon de pouvoir publier et d'être visible sur le web, à une époque où pour publier, il n'y avait que l'édition classique. Donc la question, c'était qu'est-ce que ça va changer au travail d'écriture, au travail d'interaction avec le public, de pouvoir utiliser ces médias. Donc j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années sur ce qui se passait sur les forums, les sites de messagerie instantanée, les pages perso, autant d'outils qui sont quasiment, enfin des outils qui ont disparu, qui ont été remplacés par des innovations comme les réseaux sociaux et autres systèmes. Et puis il y a 3 ans, je me suis dit je vais avoir une démarche un peu systématique, essayer de voir aujourd'hui ce que font les écrivains avec le web. Alors on pourrait se dire que le web est le média naturel pour les écrivains, et pourtant le premier résultat étonnant, c'est que la grande majorité des écrivains n'étaient pas du tout présents sur le web, donc même en 2010-2011. Donc je crois que c'était Christine Génin avait établi qu'il y avait à peu près en fin 80, début, milieu des années 2000, il n'y avait que 30% des écrivains qui avaient un site web par exemple. Et parmi ceux qui ont un site web, donc le travail de recherche que j'ai mené a permis de voir qu'il y avait 2 postures radicalement différentes dans la manière d'utiliser le web. On avait d'un côté des écrivains qui avaient déjà publié dans des maisons d'édition, qui n'utilisaient le web que comme une vitrine, comme un lieu pour indiquer les dates de publication, donner des dates de lecture, montrer les quatrièmes de couverture. Donc le web était uniquement un outil de promotion de soi, comme pouvaient l'être les courriers à d'autres époques. Et à côté de ces écrivains qui sont finalement majoritaires sur le web, hein, donc des écrivains qui ont des sites vitrines et qui utilisent aussi Facebook comme une vitrine, hein, pour informer leur lecteurs dans leurs actualités littéraires, on avait un groupe d'écrivains qui utilisaient le web d'une manière totalement différente. Leur objectif, c'était vraiment d'utiliser le web comme un outil de création, un outil d'expérimentation littéraire, pour voir ce que le web allait pouvoir permettre en termes d'invention, d'innovation littéraire. Et donc leur site, évidemment, n'avait strictement rien à voir avec les autres. C'était des sites où ils cherchaient à exploiter les potentialités du web. Potentialités du web, à savoir le fait qu'on n'a plus simplement de l'écriture, mais on a du multimédia. Donc qu'est-ce que c'est qu'écrire en intégrant l'image, le son, la vidéo? Donc c'est aussi une façon de déplacer le travail d'écrivain en expérimentant d'autres formes artistiques. C'était aussi exploiter la dimension dynamique de l'écriture. Donc plutôt que de publier une œuvre finie, c'était cette idée de réintroduire la notion de série, de publication progressive au fil du temps, avec un rythme de publication qui fait qu'il y a des rendez-vous qui se construisent avec les lecteurs. Et puis le dernier point qui est lié à celui-là, c'était repenser la relation avec les lecteurs, c'est-à-dire comment je construis des formes d'interaction, comment j'ouvre la possibilité aux lecteurs d'intervenir sur mon œuvre ou non, comment je construis des espaces d'interactifs d'une autre sorte. Donc on a vraiment, de ce côté-là, une forme de création beaucoup plus, enfin, où le web est vraiment un outil, un atelier d'écriture à part entière. Oui, j'ai oublié un dernier point qui était central, c'était aussi inventer des formes d'écriture qui utilisent les contraintes du web. Par exemple, il y a eu beaucoup d'expériences de tweet littérature où on cherchait à utiliser le tweet comme un format d'écriture en étant contraint par la longueur fixe de l'écrit. Et donc, si on regarde les sites de ces auteurs, il y a certains points communs. Par exemple, la forme du journal, où il y a une association texte-photo, est devenue quasiment systématique parmi tous ces écrivains qui ont leur site de création. Alors, l'autre point important, c'est d'essayer de voir ce que ça a changé par rapport à ce qui existait avant. Donc, dans le domaine de la littérature, il y avait 2 phases extrêmement distinctes depuis que l'imprimerie existe et que les maisons d'édition existent. On avait la phase de création, la phase d'écriture, et puis il y avait le moment de la publication, et à ce moment-là, on entrait dans la phase de lecture et de réception. Donc la production, la phase de production était séparée de la phase de réception, enfin globalement. Et donc ce qui arrive avec le web, c'est qu'on a une interaction beaucoup plus forte. C'est comme un peu dans le développement informatique, c'est le développement agile se développe beaucoup en informatique. Et en écriture, on a exactement ce même phénomène, c'est-à-dire qu'au lieu de publier en ligne une œuvre finie, définitive, on publie une œuvre en cours et elle est retravaillée au fil du temps en fonction de son propre travail d'écriture, mais aussi en fonction des réactions qu'on peut avoir du public. Par exemple, il y a un travail qui a été fait par Philippe Lejeune sur les journaux intimes en ligne. Et il montrait très clairement comment la manière d'écrire un journal en ligne, un journal intime en ligne, était vraiment transformée par la présence du public. Parce que le public attend que vous publiez votre billet de façon assez régulière, donc il vous impose un certain rythme. Et puis parce que la façon de formuler son journal devait prendre en compte la question du public. Voilà, donc on a un entrelacement beaucoup plus étroit entre la phase de création et la phase de réception, qui peut aussi faire poser certaines questions. Hein, est-ce que l'auteur est encore aussi maître de son travail s'il s'expose et s'il est en réaction permanente avec ce que dit son public? Voilà, et le point aussi, et ça c'est vraiment en lien avec tout ce que vous avez montré, c'est que les brouillons étaient invisibles jusqu'à présent. Et donc le web et tous les types de plateformes qui existent aujourd'hui pour présenter son travail font que le travail de brouillon, le work in progress, peuvent aussi avoir, enfin le making of, on dirait au cinéma, peuvent aussi être visibles. Et enfin, c'est un peu comme Beaubourg hein, qui montre l'intérieur à l'extérieur. Et on a donc une exposition de soi qui n'est pas limitée à l'œuvre, mais qui inclut aussi tout ce travail préparatoire et ce travail de construction. Je pensais peut-être mieux qu'on passe à la suite des questions, ou vous voulez qu'on... Sinon, j'avais un autre...
Ah ben, allez-y.
C'était sur la partie réseau, c'est pour ça que je... J'y vais ?
Oui.
Donc, l'autre point qui était très important, et ça, on discutera sans doute tout à l'heure, c'est que sur l'étude que j'ai menée sur les écrivains autour du web, leur caractéristique, c'est qu'ils sont tous reliés les uns aux autres. Donc, leur blog... sont tous interconnectés et ils forment un groupe, ils forment vraiment un collectif très étroit. Et c'est une dimension fondamentale parce qu'ils cherchent à défendre une nouvelle façon de faire de la littérature et pour ça on ne peut pas être seul. Donc c'est nécessaire d'être vraiment dans un cadre collectif et dans un réseau d'interaction. Donc ce ne sont... Ils remettent un petit peu en question cette idée de l'auteur isolé dans sa tour d'ivoire, qui est une vision très romantique de la création artistique, pour bien montrer au contraire qu'ils sont tous en réseau et qu'ils sont chacun les lecteurs des autres. Et les premiers lecteurs de ces auteurs, ce sont les autres auteurs. Donc là, c'est vraiment un point très important aussi dans le numérique, c'est qu'il y a une réversibilité des positions. Il n'y a pas d'un côté les écrivains ou les auteurs et de l'autre les lecteurs, mais on est vraiment dans des réseaux où chacun peut alternativement être dans cette posture d'auteur, dans cette posture de lecteur. Et c'est quelque chose qui est très important dans ces réseaux émergents de nouveaux auteurs qui cherchent à défendre une posture un petit peu alternative de ce qu'est la littérature.
Oui, donc effectivement, sur les réseaux sociaux, ce qu'on pouvait dire, c'est que par les discussions qu'on a eues avec Julien et Margot, et vous me direz si je me trompe, vous avez des pratiques, si on peut dire, du réseau qui sont très différentes. C'est-à-dire que, Julien, toi, tu nous as clairement dit que tu t'adressais par ton blog, etc., à tes proches, qu'effectivement, il y avait une idée d'interaction, mais qui se faisait déjà parce que tu avais un rapport... d'affection ou professionnelle avec eux.
Ouais. Oui. C'est vrai que j'ai peu d'interaction avec des gens que je ne côtoie pas visuellement. Enfin, en dehors de peut-être justement le dernier exemple que je vous ai montré, notamment avec les essais de vidéo à 360, etc., qui est un groupe que je n'ai pas encore rencontré, que je vais rencontrer dans 2 mois normalement, à Bourges justement. Mais pour l'instant, non. Oui. Enfin, tous les gens avec qui je travaille. Au travers des réseaux, c'est des gens que je connais, oui.
Et du coup, nous, on trouvait ça assez intéressant de voir que, finalement, là où tu pourrais passer par des outils de communication, entre guillemets, basiques et directs, puisque tu les connais, finalement, tu te sers de ces plateformes qui sont destinées aussi à toucher un réseau infini, mondial, etc., pour finalement t'en détourner? C'est volontaire. C'est peut-être une question peu claire.
Le temps que je l'analyse, je pense qu'après, c'est surtout qu'il y a une volonté de pas non plus faire n'importe quoi, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est vrai que les échanges sont toujours très, on va dire, très propres, et on va éviter de mettre trop de bêtises d'une certaine manière, puisqu'on sait que c'est ouvert, qu'il y a d'autres personnes qui peuvent y accéder. Mais ça permet aussi d'une autre manière d'incorporer dans des processus de travail des personnes qui font partie de ma petite communauté ou de la communauté avec des autres personnes qui vont interagir en donnant leur avis, tout simplement, leur conseil, ou alors juste mettre un super. Enfin voilà, c'est des choses comme ça, quoi.
Et peut-être, du coup, pour finir sur la question, on a remarqué avec Margot donc, que tu avais une pratique plutôt solitaire, puisque même si tu mets en place des outils pour que les visiteurs puissent accéder à ton blog, rechercher par mots-clés, etc., tu n'entres pas ou peu en relation avec eux. Et c'est voulu ou...
Ben, je sais pas si c'est voulu, mais je pense que c'est un peu aussi une sorte de fantasme d'Internet, de penser que c'est un réseau qui relierait tous les gens du monde, en fait. Enfin, c'est au final, moi aussi c'est pareil, les gens qui me suivent, c'est un réseau qui est assez restreint. Il y a quelques inconnus que je ne connais pas, mais enfin, c'est tellement peu par rapport à tous les utilisateurs d'Internet que c'est... Donc je pense que c'est aussi, on projette sur Internet finalement l'idée d'une vitrine, on parlait tout à l'heure de la promotion, mais moi je pense que ça fonctionne pas du tout, enfin en tout cas ça fonctionne moins bien que les échanges concrets. Et voilà, je pense que c'est un peu une vision qui est fantasmée d'Internet, de penser que c'est un réseau, et que les réseaux sociaux sont des réseaux sociaux, en fait c'est à mon avis plus... En tout cas pour Tumblr, je parle pour Tumblr, mais je sais, peut-être que...
En fait, je pense que ça dépend avant tout des pratiques que l'on a. Enfin, c'est-à-dire que par exemple, des personnes comme Marion Aurel ou Émilie Gervais, etc., qui jouent avec l'iconographie du web, c'est-à-dire voilà, les petits chatons, etc., les petits arcs-en-ciel, tous ces trucs-là, à poster partout leurs visuels, etc., qui sont dans le web, qui sont dans l'imagerie du web. Elles forcément, pour ne citer qu'elles, elles auront énormément d'interactions au travers du web, puisque tout leur travail repose dessus, sur cet univers, quoi. Je pense que après, enfin tu me dis si je me trompe, hein, mais autant Margot que moi, c'est vrai que comme on a des pratiques qui sont un peu plus, on va dire, d'une certaine manière, moi je reste toujours dans cette chose-là, une pratique en dehors du clavier malgré tout, la communauté web, elle n'est pas évidente. Enfin, c'est une chose qui à la rigueur serait à créer vraiment de toutes pièces, ça serait un travail à temps plein, quoi, presque, mais elle ne se fait pas d'elle-même à partir du moment où on poste nos vidéos ou nos photos ou nos sons ou nos dessins, etc., quoi. C'est...
Peut-être que Valérie voulait rebondir là-dessus.
Oui, ce qui était très intéressant dans les entretiens qu'on faisait avec les auteurs, c'est que beaucoup disaient que c'est des auteurs qui étaient pas, enfin qui n'avaient pas publié encore dans des maisons d'édition, donc ils étaient dans un espèce de parcours pour arriver à devenir des écrivains reconnus. Et ce qu'ils disaient, c'est que le temps qu'ils consacraient à l'entretien des relations et des interactions avec leurs lecteurs était vraiment très important et se faisait parfois au détriment de leur activité créative elle-même. Et donc certains, après avoir cette lancée de façon très active dans l'animation de réseaux sociaux, avaient une posture de retrait pour pouvoir se reconcentrer sur leur activité. Et donc il y a un vrai une difficulté aussi à être... parce que enfin, le point aussi, c'est que quand il n'y a plus de barrière à l'entrée où tout le monde peut publier ou tenter de publier en ligne, la grosse difficulté, c'est quand même de réussir à construire un public, même s'il est tout petit. parce que quand on n'a vraiment plus aucun public pour ce qu'on fait, les gens finissent par abandonner leur pratique. Et ça, quand on regarde ce que sont devenus les sites web de gens qui expérimentaient, on voyait très bien au bout de quelques années que 50 ou 70% des sites avaient disparu, parce que la motivation pour maintenir un site quand personne ne vient, quand ça n'intéresse personne, elle décroît quand même assez rapidement.
Et du coup, pour revenir aux œuvres en préparation, quelle est votre vision vis-à-vis de ces recherches finalement que Margot, toi tu es en archive, Julien tu es plus dans une expérimentation du médium. Comment est-ce que vous voyez ces œuvres-là en fait? Ce sont des œuvres, qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est ce médium que vous créez mais qui est en instance de transformation en fait? Et peut-être aussi quel rapport aussi avec la littérature et les écrivains, leurs textes et ce qui sont voués à être modifiés?
Je vais bien répondre si... Bah, moi, je pense que c'est pas du tout des œuvres. Je pense que c'est un autre statut, puisque, déjà, on montre pas des œuvres d'art. Je sais même pas si je fais des œuvres d'art, mais on montre pas des œuvres d'art sur Internet. Ce sont que des images. Donc, d'un point de vue purement théorique, ça fonctionne pas. Enfin... Et ensuite, pour moi, ça a simplement le statut à la fois d'un outil de travail qui est personnel, mais qui peut potentiellement, par le médium d'Internet, s'ouvrir aux autres, tout simplement. Voilà.
Oui, enfin, après, voilà, juste pour ma part, moi, c'est vrai que je leur donne peut-être un statut plus... peut-être plus important que juste la recherche ou brouillon, quoi. C'est vrai que y a ce qui se passe en ligne et il y a ce qui se passe en dehors de l'ordinateur, quoi. Donc non, d'une certaine manière, pour moi, ce qui est sur en ligne, ce sont, ouais, bon, j'aime pas le parce que bon, voilà, mais si, ce sont des œuvres, ce sont des pièces qui sont peut-être pas finies, qui sont en évolution constante. Ça, c'est évident, puisque forcément, je reprends toujours des choses que j'ai, enfin des concepts que j'ai établis des fois il y a plusieurs années pour les réinterpréter, les reprendre, les remixer, etc. Je faisais beaucoup ça avec les images avant, c'est-à-dire vous pouviez voir une image qui avait été faite en 2006 de retour dans une vidéo en 2012, etc. Mais donc voilà. Mais après, c'est vrai que pour moi, ça reste quand même ça reste un atelier d'expérimentation. Ça reste mon atelier, quoi, tout simplement. Donc il y a un statut qui est propre à ma pratique, quoi, c'est évident.
Mais enfin, il y a une différence quand même qu'on peut voir, c'est que Margot, toi, ton site, tu l'alimentes aussi d'images, entre guillemets, qui ne t'appartiennent pas. C'est-à-dire que tu pioches à droite à gauche. Est-ce que l'association que toi tu vas créer entre tous ces fichiers, du coup, tu estimes que quelque part, tu as une forme de paternité, enfin voilà, sur l'association que tu crées?
Non, je pense pas.
Par exemple, par rapport aux mots-clés ou...
Même une image qui pourrait être prise par moi, à partir du moment où on la met sur une interface sociale, à mon avis, c'est compliqué de revendiquer une quelconque maternité, du coup. Non, je pense pas. Et je voulais juste rebondir, parce que Julien, je pense que tu as oublié de préciser que, en fait, tu as des interactions aussi sur... Enfin, je sais pas si tu l'as dit ou si c'est moi qui ai échappé, que tu as des interactions aussi avec des utilisateurs sur les plateformes et que ça peut aussi influencer ta pratique. Et c'est...
Oui, c'est vrai, oui. Mais après, pas non plus une quantité folle. Hein. Non, si, oui, il y a forcément l'interaction, oui, avec, on va dire, le spectateur ou auditeur. Il y a forcément des retours, mais bon, après, c'est... Comme dans toute pratique, qu'elle soit physique, en ligne ou n'importe quoi, enfin, ça reste ça n'a rien d'exceptionnel en fait, quoi. Ça reste dans ce rapport-là, simplement de critique, analyse, spectateur. Enfin, ça reste très basique.
Et, du coup, Valérie, par rapport au work in progress des écrivains, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent en fait? Le statut du
Ce qui était quand même assez intéressant, c'est que pour les écrivains, c'est dans, finalement l'horizon de la publication dans une maison d'édition, c'est quand même, c'est toujours l'horizon attendu. Bon, c'est vrai que le livre numérique a du mal à décoller, mais c'est vrai que pour les écrivains, c'est quand même être édité dans une maison d'édition qui compte. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce groupe d'écrivains en ligne, ils se sont construits une revue électronique, Et puis après, ils se sont construits une maison d'édition en ligne. Et quelques années plus tard, ils se sont dit, non, on va à notre maison d'édition, on va produire des livres papier. Et donc maintenant, c'est une maison d'édition qui produit aussi, qui publie et qui édite des livres papier. Donc c'est intéressant.
J'aurais peut-être une petite question. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapprochement à faire entre ce genre de communauté d'écriture davantage à la résidence d'artistes, enfin la résidence d'écrivains en fait. Est-ce qu'il n'y aurait pas, enfin je ne sais pas,
ah oui,
c'est un parallèle à faire.
Oui, parce que dans les résidences d'écrivains, on est aussi amené à publier au fur et à mesure.
Et surtout être confronté à d'autres écrivains aussi.
Oui,
souvent. Oui, et est-ce que ce n'est pas dans ce sens-là qu'il y aurait plus un rapprochement à faire
Oui, c'est une très bonne question, il faudrait creuser. Là, je ne saurais pas vous dire tout de suite, mais.
D'accord, et du coup, comme on est, le temps passe vite, peut-être passer, si deux personnes d'entre vous ont des questions concernant ses œuvres, concernant ses recherches.
Concernant la diffusion.
Alors bonjour, moi j'ai une remarque par rapport à ce que vous disiez tout à la fin. Vous dites que même s'ils ont créé une maison d'édition numérique, ils sont tournés vers le papier. Comment vous expliquez que dans la photo, dans la musique, tout ça, tout se dirige vers le numérique, tous les gens que téléchargent des MP3 comme beaucoup plus qu'ils achètent des CD, et pourquoi pour le livre ça retourne vers le papier? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas passé le pas? Qu'est-ce qui manque à l'industrie pour tout ça?
Si on avait la réponse, ça serait réglé. Non, c'est vrai que c'est quand on compare les quatre grandes industries culturelles, c'est très très étonnant de voir que le domaine du livre n'a pas du tout le même rythme. Mais le livre, c'est un média qui existe depuis très 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 longtemps. Donc le format du codex remonte à plusieurs dizaines. Remonte à très longtemps, et donc il a été perfectionné au fil des siècles de façon très très forte, et donc c'est finalement assez difficile d'arriver à trouver une interface numérique qui ait la même qualité que l'expérience du livre. Et les utilisateurs utilisent du numérique, le livre numérique en voyage, parce que c'est très pratique quand il faut se déplacer, mais quand il s'agit de lire, le retour au papier est encore très important. On est à 6% de lecture en livre numérique. Mais alors, le vrai changement, c'est le livre pour des gros romans, ça sera toujours sans doute du papier, pour une grande partie, on ne sait pas combien de temps évidemment, mais la question c'est que finalement c'est plus tellement les livres qu'on lit. Il y a eu quand même un grand déclin de l'activité de lecture, et on lit d'autres types de formats, on lit des billets, on lit des formats courts, des textes qui ont une nouvelle nature, qui sont multimédia, qui sont hybrides, et c'est là que émergent des nouvelles formes littéraires aussi. On ne va peut-être pas avoir juste une transposition du papier au numérique, mais une réinvention d'autres formes d'écriture ailleurs.
J'aurais une question qui est plutôt une remarque. En fait, je connais bien le milieu de la musique, et en fait, ça me frappe en entendant des jeunes artistes parler, quand je compare avec justement l'activité dans les réseaux sociaux des jeunes artistes musiciens, qui est extrêmement intense, extrêmement différente, puisque en fait, aujourd'hui, si on veut être signé sur une maison de disques, il faut avoir déjà un certain nombre de likes, je sais pas, 10 000 likes sur Facebook, puis un certain nombre de vues sur sa première vidéo YouTube, et c'est quasiment en fait un passage obligé, c'est-à-dire que en fait, il y a une construction de l'activité d'artiste qui commence par les réseaux sociaux et qui est très différente de vous, de ce que vous dites, essentiellement en fait parler à un réseau qui existe physiquement, et c'était plus une remarque en fait.
Après, je pense que c'est clair que la course au like dans la musique, c'est une chose qui est peut-être plus pas normal, mais dans tous les cas, la musique, ça touche énormément de monde. C'est vrai que nous, nos médiums, tu vois, même une exposition, enfin, on ne va pas faire des tournées avec 50 dates, avec 300 personnes tous les soirs qui vont venir à nos vernissages, quoi. Ça serait un peu prétentieux, je pense. Mais donc forcément, c'est vrai que la musique, il y a une sorte de consommation de la musique qui est beaucoup plus... régulière, quotidienne, intense, quoi. Même moi, c'est vrai que je dois écouter 8 heures de musique par jour puisque je suis toujours dessus et voilà, quoi. Mais enfin, je sais pas si ça, dans tous les cas, c'est vrai que c'est deux manières de fonctionner différentes dans la vie physique et qui peuvent se retrouver aussi, enfin, qui ont aussi leurs différences dans le monde pseudo-virtuel, on va dire, quoi. Enfin, c'est, y a pas du tout cette accroche, on va dire, enfin, c'est pas du tout la même, quoi.
Après, je pense que quand même l'autopromotion, ça existe dans l'art contemporain. Enfin, en fait, généralement, c'est pas des réseaux sociaux qui sont utilisés, mais plutôt des pages, des sites internet pour montrer le travail, parce que c'est quand même beaucoup plus simple, ne serait-ce que pour envoyer, par exemple, je sais pas, une résidence ou. Donc ça passe pas par les mêmes réseaux, mais c'est quand même, je pense, il y a quand même de l'autopromotion.
Oui, puis c'est vrai que là on en a pas montré parce que, enfin, voilà, mais c'est vrai que dans tout ce qui est artiste visuel, ça va être beaucoup des galeries sur Facebook, tout simplement, des choses comme ça, genre vous avez vu mes 15 dernières images, elles sont magnifiques, viens la liker, etc. Mais enfin, oui, c'est d'autres réseaux, oui.
Puis je pense qu'il y a aussi un peu une sorte de snobisme aussi de l'art contemporain qui fait qu'on écarte généralement la promotion sur Facebook, par exemple. Ou
Oh, je sais pas, je pense qu'ils aiment aussi.
Et c'est juste pour répondre aussi à votre question, il faut voir aussi le point de vue des maisons d'édition et des producteurs de disques. Pour eux, c'est très très pratique que tout le travail de sélection soit déjà fait en amont par des publics, une audience qui déjà fait un filtrage. Et donc eux, ils ont déjà un travail fait à l'avance pour sélectionner des musiciens ou des auteurs qui ont des chances d'avoir des ventes de plus grande qualité. La logique du marché, c'est aussi l'externalisation du risque.
C'est vrai que le boulot de producteur dans la musique, il ne doit plus trop exister, quoi, actuellement. Quoi. Maintenant, c'est...
Je crois que mademoiselle avait une remarque, une question.
Bon, bonsoir. En fait, je suis assez étonnée qu'on n'ait pas du tout parlé d'Instagram. Enfin, je ne sais pas si c'était au programme ou pas.
Moi, j'en ai ouvert il y a quelques temps déjà, mais les images sont un peu trop perso. Mais ouais.
Peut-être que vous êtes des cas un peu, enfin, je sais pas. Enfin, vous dites dans l'art contemporain, il y a un, enfin, je sais plus comment vous êtes exprimé, mais vous avez dit qu'en gros, on faisait pas trop la com de ce qu'on faisait, alors que moi, en tout cas, dans ce que je vois, j'ai l'impression que c'est que vous êtes plus un cas particulier et que la tendance est plutôt à l'inverse. Je sais pas si.
Je pense que tu as tout à fait raison, en fait. Mais vraiment, enfin, c'est-à-dire que Instagram, au contraire, c'est ultra utilisé dans l'art contemporain, et notamment par des personnes dont je citais les exemples tout à l'heure, genre Émile Gervais, Marion Rel, etc. Ils ont vraiment une pleine connaissance du fonctionnement du réseau, tout simplement. Déjà, c'est un truc. Moi, je suis à 15 000 années-lumière, ils savent performer un réseau, quoi. Et oui, enfin, donc oui, t'as raison. On a oublié de parler de ça, et ouais, c'est clair. Non, mais c'est, enfin, ta remarque est très juste, je trouve. Mmh.
Parce qu'en plus, du coup, il y a aussi sur Instagram, il y a autant, je veux dire, le particulier que le galeriste, que n'importe qui poste, et on ne sait pas forcément qui. Enfin, comment dire. Si on fait l'analyse de toutes les images d'une œuvre, on ne peut pas forcément savoir si elle vient de l'artiste ou si elle vient avec les reposts, etc. Enfin.
C'est-à-dire qu'en fait, on s'est aussi intéressé surtout à la recherche et au processus.
D'accord.
Et en fait, pour moi en tout cas, Instagram, c'est une vitrine de travaux finis. C'est-à-dire qu'on met vraiment l'accent sur une esthétique du visuel qui, du coup, nous, pour ce propos, nous intéressait moins parce qu'on voulait vraiment s'intéresser au work in progress, à l'œuvre, c'est pas brouillon, mais à tout ce qui entoure justement ce qu'on voit et cette vitrine. Peut-être un peu austère parce que du coup c'est très froid et Mais effectivement, c'est, en termes de promotion, je pense qu'aujourd'hui, c'est un outil indispensable.
Mais je pense pas qu'en termes de promotion, il y a aussi des œuvres qui sont vouées à être juste postées sur Instagram.
Oui, ce qu'on appelle des artistes du web. Quoi. C'est des artistes qui, créent, qui n'auraient pas de... Leur pratique sans le web ne serait pas scalée, quoi. Enfin, c'est évident. Enfin, c'est, c'est clair.
Même il y a des expos maintenant sur des sites internet, des expos virtuelles.
Oui, puis il y a de plus en plus de galeries qui se spécialisent, on va dire, dans ce genre de d'imagerie, enfin, notamment XPO, etc., qui sont qui vont vers ce genre d'artistes, quoi.
Après, je pense que le problème de ce type d'interface, c'est qu'elles mettent toutes les images au même niveau, c'est-à-dire que une personne lambda qui a publié quelque chose, son image vaut autant que, que le plus grand artiste. Il y a un problème, je pense, de... ça vient du design de l'interface sûrement, mais toutes les images sont mises au même niveau, donc c'est compliqué de promouvoir un travail uniquement sur, sur une image et qu'elle soit perdue comme ça dans une interface qui soit aussi énorme.
En fait, c'est que le travail, ce n'est pas l'image. C'est le travail, c'est leur fil, quoi. C'est tout ça, c'est le travail. Donc, du coup, c'est fait pour être perdu dans un tas, etc. Et c'est là que ça devient intéressant, enfin, d'une certaine manière, quoi.
C'est l'esthétique des systèmes. Enfin, c'est le réseau qui devient œuvre. C'est pas le poste qui est.
Enfin, l'esthétique des systèmes. Après, ce serait peut-être d'autres types d'artistes. Ça serait plus des artistes à la rigueur, type, un peu. Comme la semaine dernière, là, ils en parlaient, il y avait une conférence avec Benjamin Golon, donc, qui fait partie du Graffiti Research Lab, qui lui va vraiment faire de l'esthétisme des systèmes en essayant de hacker un peu tout ça, notamment par exemple avec des œuvres où il bidouille des navigateurs, etc. Il les balance sur le réseau et en fait ça fait vriller tous les... soit les navigateurs, soit des réseaux, etc. Quoi. Enfin, là, il y a vraiment une esthétisme des systèmes, enfin, si on met une définition propre. Quoi. Mais après, oui, c'est plus une esthétisme web, en fait, tout simplement. Enfin, ou alors une esthétisme des réseaux en soi, peut-être. Enfin, c'est vrai que notamment par Instagram, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui s'expriment avec genre 15 images par jour, et c'est leur fil de Instagram qui devient une œuvre en soi, quoi, qui est magnifique. Quoi, qui est... Mais, enfin, après, j'ai pas plus de...
Merci. Je sais pas si quelqu'un d'autre avait une question là-bas, oui, au fond.
On va mettre des casquettes la prochaine fois.
Bonjour. Moi, en fait, ma question, c'était c'est plus d'un point de vue philosophique et un peu littéraire aussi. Est-ce que le fonctionnement d'Internet aujourd'hui, avec cette recherche, cette quête de connaissances infinies et perpétuelles, est-ce qu'on peut la rapprocher un peu de ce qu'il y a eu à la Renaissance aussi, avec cette quête de connaissances infinies ? Et est-ce que, paradoxalement, ce n'est pas un peu illusoire ? Est-ce qu'on a l'impression de tout savoir sur tout et finalement, on se centre sur pas grand-chose et on a l'impression de reculer plus dans la connaissance que d'avancer, j'ai l'impression.
Hugo.
Merci. Oui, bien sûr, il y a toujours cette perspective-là, c'est sûr. Mais après, nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment cette idée de recherche et en quoi, finalement, le médium web et Internet collent excellemment à cette thématique-là. C'est-à-dire que ça ne sera jamais fini, c'est infini par définition. Et du coup, ça est voué à s'étendre, et donc du coup c'est vraiment cette œuvre en création qui, finalement, les artistes utilisent l'œuvre en création, mais finalement le médium lui-même est en perpétuelle création, et donc c'est différent ou pas de la non-renaissance, ça je sais pas sûr, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a clairement des points de ressemblance et vous n'avez pas tout à fait tort. Je sais pas si quelqu'un d'autre a d'autres questions ou si vous voulez rebondir sur cette remarque.
Enfin, on entend souvent dire que le langage et l'écriture permet de raconter finalement ce qu'on vit à un moment donné, hein, dans un intervalle, dans une temporalité et à notre période. Est-ce que vous pensez que Twitter, que les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, finalement écrivent un petit peu notre histoire d'aujourd'hui ? L'histoire qu'on vit aujourd'hui, l'histoire qu'on vit à notre époque, est-ce que finalement tous ces réseaux sociaux, enfin, écrivent un livre qui serait notre vie aujourd'hui. Voilà, c'est une question.
Qui utilise encore MySpace actuellement ?
Comment ?
Qui utilise encore MySpace ? Enfin, je pense que, ouais. Enfin, moi personnellement, je pense que ça écrit des histoires, oui. Mais enfin, voilà.
Pour MySpace, ça... moi, c'est pas quelque chose que je pratique, mais là, c'est vrai qu'on parlait d'Instagram même tout à l'heure. Enfin, c'est finalement quand les artistes écrivent sur Instagram, ils racontent une histoire, et finalement, moi, je suis plutôt pour que l'image sur Instagram, c'est une œuvre, et même aujourd'hui, quand on voit des artistes comme Amalia Ullman qui expose finalement à la Tate ses photos sur Instagram, je trouve qu'elle écrit quelque chose, et sans Instagram, elle pourrait pas exposer à la Tate aujourd'hui. Et je me demandais, voilà, par rapport à l'écriture et aux écrivains, ce que vous en pensiez de tout ça.
Oui, ça nous parle du monde, hein. C'est des lieux où s'écrit l'histoire de notre société à l'heure actuelle. Et une des grandes questions, c'est comment on garde trace de tout ce qui est en train de se passer. Comment on arrivera dans 50 ans, même pas dans 50 ans, dans 20 ans, à expliquer comment ça se passait aujourd'hui et maintenant dans les interactions et dans la façon d'écrire et d'échanger dans notre société. Et je dis ça parce que pour expliquer ce qui s'est passé il y a 20 ans, Julien a parlé de archive.org, mais c'est à peu près la seule chose qu'on a pour voir comment était le web il y a 20 ans. Et on sait déjà que dans 20 ans, il n'y aura plus Facebook, ça sera complètement autre chose.
En fait, quand je disais MySpace, c'est ça, c'est parce que moi, j'ai fait partie avant tout du réseau MySpace il y a 15 ans, et c'était magnifique MySpace, quoi. Mais maintenant, il n'y a plus personne qui utilise MySpace, et pourtant, à l'époque, c'était un lieu de création, d'échange, c'était un bordel géant, mais qui était magnifique. Et c'est mort en un an. Enfin, plus personne. Ça s'est divisé entre SoundCloud, Facebook, puis il n'y a plus MySpace, quoi. Et pourtant, c'était des communautés énormes, et j'aimerais bien les retrouver, enfin, juste les observer, mais c'est pas possible, quoi. C'est mort.
Une vraie question, hein, sur les traces que laisse notre époque.
Bah justement, vous devez connaître l'écrivain Kenneth Goldsmith, qui a essayé d'imprimer le web il y a une dizaine d'années, et qui a simplement demandé aux gens d'envoyer des pages web, et lui les imprimer, et je ne sais plus combien d'exemplaires il a eu au final, et il a essayé d'imprimer le web, et aujourd'hui, c'est une question qui se pose, et beaucoup de revues et de magazines essayent d'y répondre, et je ne sais pas, enfin, vous pensez que les écrivains pourraient faire comment, finalement, pour écrire le web.
Est-ce que c'est leur rôle aux écrivains d'écrire le web, quoi? Enfin, c'est... Quand tu vois que déjà, même au niveau informatique, enfin au niveau numérique, on a du mal à conserver des données. Par exemple, un CD-ROM qui a été fait en... C'était Chris Marker qui avait eu ce souci-là avec un CD-ROM qu'il avait réalisé en... Je crois que c'était en 97 ou 98. Et malencontreusement, même pas 2 ans après, le CD-ROM était illisible. Donc, parce que les OS n'étaient plus les mêmes, les lecteurs ne correspondaient plus, etc. Ils ont eu un gros souci de sauvegarde de cette œuvre. Et je ne sais même pas si elle a été actualisée. Enfin, peut-être, j'espère, quoi, mais je ne crois pas qu'elle ait été actualisée avec les nouveaux moyens, quoi. C'est-à-dire que tu es obligé d'utiliser le vieil ordi pour lire l'œuvre de Chris Marker. Donc déjà, si même dans le numérique, ils n'arrivent pas à se lire... D'une époque à l'autre, je ne sais pas comment transposer ça dans un autre médium qu'est le numérique, quoi.
Quelqu'un d'autre ou... Monsieur, là-bas.
Donc, je voulais savoir, alors, est-ce que le web n'était pas, le web et le numérique n'étaient pas dangereux pour dévaloriser l'œuvre d'art qui est à la base unique et rare, et en même temps met en concurrence les amateurs et ceux qui ont vraiment un talent?
Déjà, je pense qu'il y a des amateurs qui ont du talent, mais enfin, après, bon, je vais peut-être laisser les artistes répondre. Est-ce que les œuvres transposées sur Internet, est-ce que ça dévalorise pas la notion d'œuvre d'art?
C'était toujours cette même idée d'autopromotion, en fait. C'est-à-dire que soit on est habile et on maîtrise les codes, c'est-à-dire avec des belles images. Voilà. Bien sûr, c'est compliqué parce que, enfin, bon, je connais très bien l'artiste, par exemple Eva Bartow, et c'est quelqu'un qui justement contrôle énormément l'utilisation des images de ses installations, parce que pour elle l'installation, ça se vit, donc on n'a pas à montrer des images de l'installation, donc elle montre peut-être des détails, mais elle tempête et elle fait en sorte de justement que son travail ne soit pas montré sur Internet en fait. Et c'est plus dur de ne pas montrer son travail sur Internet que de le montrer en fait. Donc je pense que on se perd aussi peut-être à poster trop de choses de son travail sur Internet. Peut-être que effectivement on est emporté dans cette vague avec des amateurs, même si à mon avis c'est un peu compliqué de faire une distinction entre amateur et.
En fait, c'est pas tant amateur, je veux dire, c'est par rapport au plagiat, contrefaçon et utilisation et démultiplication, en fait, tous ces phénomènes-là, en fait, qui interagissent.
Si ça appauvrit l'œuvre, c'est ça que vous voulez dire ?
Oui, en partie, oui, parce que plus on démultiplie, plus ça vaut plus rien. Et puis l'usage qui est fait par différentes personnes qu'on ne sait pas forcément.
Après, donc, je pense que c'est quand même un problème de.
Parce qu'on perd le contrôle, en fait, de pas mal de choses, et puis après, on se.
C'est une question aussi de statut. Qu'est-ce qu'une œuvre, en fait ? Ça peut, c'est une autre forme d'œuvre en fait. Je pense que ça crée quelque chose de nouveau, ça permet quelque chose de nouveau. Donc ça déprécie pas l'œuvre. Je pense que ça ouvre un champ nouveau quoi. Dans...
Oui, je sais. C'est très bien qu'on fait faire la promotion. C'est un grand avantage à ce niveau-là d'avoir des fans et tout ça. Mais c'est vrai que quand je regarde le côté, par exemple, des gens qui pourraient plagier ou prendre le travail des autres sans s'en inspirer, hein, j'ai bien. Mais brutalement faire du copier-coller, comme ça s'est fait par Instagram, je crois. Il y avait un artiste aux États-Unis, je crois, le scandale qu'ils ont parlé, qui reprenait des copies d'écran et qui faisait des œuvres. Bon, il a le droit, plus ou moins, mais après, entre les pays et tout ça, les lois qui changent, donc c'est assez complexe, en fait. Donc,
Malheureusement, je crois qu'on s'est... Enfin, en fait, on en parlait au tout début où on s'est rencontrés. Et on se disait qu'effectivement, en fait, l'histoire du web, elle est en train de s'écrire, elle est encore toute jeune. Et je pense qu'en fait, c'est des problèmes qui, pour l'instant, sont encore beaucoup trop récents pour qu'on ait des réponses, des législations, etc. Mais effectivement, il y a peut-être un jour où ça va devoir arriver parce que ça va prendre beaucoup plus d'ampleur et où ça peut devenir sans doute un problème, oui, c'est sûr.
Ça arrive déjà avec des peintres qui reproduisent des photographies qu'ils trouvent sur Internet. Et qui ensuite ont des procès de droit d'auteur.
Après je pense que les faussaires ont toujours existé aussi. Voilà. Donc c'est une nouvelle pratique qui a induit de nouveaux problèmes, mais c'est toujours un peu les mêmes, même s'ils sont transportés par des médiums dits différents.
Excusez-moi de vous couper, j'ai oublié aussi de dire, parce que aussi dans les réseaux sociaux, quand on s'inscrit, il y a une clause qui dit comme quoi on cède les droits. Il y a ça aussi qui rentre en jeu. Donc du coup,
après c'est la responsabilité de l'auteur.
C'est vraiment à l'artiste de savoir utiliser ces nouveaux médiums. Enfin, il faut vraiment savoir utiliser. C'est pas quelque chose qui c'est quand même un apprentissage pour s'approprier vraiment ce que c'est et utiliser vraiment à bon escient en fait. Donc bien sûr qu'il y a des dérives, mais si les artistes l'utilisent, comme disait Margot tout à l'heure, il y a des artistes qui comprennent bien l'enjeu. En fait, il faut juste que l'artiste se penche vraiment sur le médium pour voir les possibilités néfastes que ça peut avoir.
Après, juste en petite précision, c'est pas pour rien que Vimeo a été l'un des premières plateformes web vidéo la plus utilisée par les créateurs de vidéos, puisque ça a été la première, je pense, enfin peut-être que YouTube l'a fait après, etc., mais à vraiment mettre en avant le choix du droit d'auteur que l'on voulait sur chaque élément que l'on mettait en ligne. C'est-à-dire quel Creative Commons, etc. etc. Enfin, est-ce que c'était une vidéo libre, enfin, téléchargeable et recopiable à l'infini, ou alors simplement téléchargeable, ou alors totalement verrouillée, etc. Donc après, oui, c'est sûr, c'est la responsabilité malgré tout des artistes de jouer avec ces pertes de droits, etc. Enfin, c'est sûr que, par exemple, je n'ai pas d'exemple, mais un artiste qui œuvrerait qu'au travers de Facebook, bon, je pense qu'il n'aurait plus trop de droits sur ses images. Quoi. Bon, même si je n'ai pas lu toutes les clauses de Facebook, mais je pense que ça doit être à peu près ça. Quoi. Et pareil pour d'autres réseaux, et peut-être d'autres seront plus libres. Enfin, voilà.
Donc, en fin de compte, il faudrait faire une production pour le web, une production physique, quoi, je pense.
Non, ça dépend des concepts, en fait. Ça dépend de ce que l'on veut montrer, ça dépend de quelle manière, ça dépend de...
On ne doit pas s'en sentir obligé de céder des droits. Si on ne veut pas céder des droits de ces images, on a le droit. donc je pense que
oui.
Il ne faut pas les publier. Enfin, il ne faut pas les publier. Malheureusement, ça fait partie. Enfin, Internet est une vaste source d'images d'open source, et je pense que quand on publie quelque chose sur Internet, on a conscience aussi de ce que ça peut amener. Donc, en même temps, c'est une chance formidable parce que ça participe à enrichir cette base de données, et en même temps, on perd quelque part peut-être un peu. Bah voilà, enfin, tous les droits dessus. Après, voilà, ça reste mon avis. Mais...
Donc, si quelqu'un a notre. Ah, encore.
C'est juste par rapport justement à cette question d'authenticité et de l'image. Il y a une conférence jeudi sur l'aura à l'heure des singularités numériques, qui sont en fait spécifiques à ces idées d'images qui n'ont... On ne sait pas encore leur statut, en fait. On ne sait pas encore ce qu'elles sont. Les artistes et tout le monde réagit à... Enfin, jouent le jeu, en fait, comme vous disiez. En fait, ils acceptent de les mettre sur ces plateformes. Et du coup, c'est une question actuelle. Mais tout ce qui était... Enfin, tout ce qui est plagiat, etc., c'était... Ça fait bien longtemps, maintenant, qu'il y a des copies et des faussaires. C'est juste que là, c'est vrai que ces images-là, en tout cas, tout le monde joue le jeu. Et on ne sait pas le statut. Et donc, si vous voulez, il y a une conférence qui est sur ce sujet-là, en fait, de l'authenticité de l'image et le statut de ces images-là.
Où ça, du coup ?
À l'École normale supérieure, et c'est jeudi à 14h. Et voilà.
Merci beaucoup de l'information, en tout cas. Je pense que ça peut être une belle continuité à cette conférence.
En tout cas, merci à toutes et merci à tous d'avoir suivi cette conférence. Merci à la BPI et à particulièrement à Bernadette Vincent sans qui cette conférence n'aurait pas eu lieu. Et merci à nos trois intervenants qui ont gentiment accepté notre invitation.
Merci à vous.
Un moment avec vous.
Merci. À vous.
Et en fait, nous, on s'inscrit, comme François Docker vous l'a présenté tout à l'heure, on s'inscrit dans un cycle de conférences, et la prochaine aura lieu le 5 mai, ça sera sur l'activisme, ça, au même endroit. Voilà.